Marqueur, l'heure de la marque.
Notre monde est marque, marque sur les vêtements, marque sur les volants, marque sur notre téléphone, marque partout en fait. Mais quel est le rôle exact de la marque dans le développement de nos entreprises et qui au sein de l'entreprise tient ce rôle de développement, de cohérence, de justesse dans le temps de la marque? Qui sont-ils? Que font-ils? Bienvenue dans Marqueur, le podcast qui met en lumière les travailleurs de la marque. Bien le bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Marqueur, sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir une professionnelle du monde des marques de l'éducation, Laurette Marchal. Actuellement, elle occupe le poste de responsable marketing et communication à l'ESPL. On en reparlera tout à l'heure. Dans une époque où l'éducation était simplement définie par des termes traditionnels comme école, collège, université, Laurette évolue désormais dans un paysage où des marques telles que My Digital School, IPAC Bachelor Factory, MBWay ou Studio M ou ESPL prennent le relais. Les marques ont envahi notre vocabulaire éducatif et nous avons la chance d'avoir Laurette ici pour en discuter, discuter de son parcours, de son expérience dans ce domaine en constante évolution. Alors préparez-vous à une discussion sans fioritures sur l'influence grandissante des marques dans l'éducation moderne, avec l'apport précieux de Laurette Marchal, responsable marketing et communication chez ESPL. Bonjour Laurette, comment vas-tu ?
Bonjour Anthony, très bien et toi ?
Je vais super bien, très content d'enregistrer un podcast ce matin et puis encore plus avec toi.
Merci beaucoup, c'est super de tenter cette expérience.
Chouette, première fois que tu enregistres un podcast ?
Première fois.
Bon, bah excellent, ça va, on va passer un bon moment. Déjà, peut-être, qu'est-ce qui t'a amené, quel était le cursus, tes études, ou peut-être si tu as travaillé pour d'autres marques avant d'arriver à travailler pour la marque ESPL?
Alors, j'ai plutôt un parcours, pour le coup, dans le public, pas forcément dans l'enseignement supérieur privé comme je travaille actuellement. Donc, j'ai fait une licence en université, licence administration économique et sociale. Option gestion des entreprises. Et après, donc, j'ai fait une année de césure où je suis partie un petit peu à l'étranger. Et ensuite, j'ai fait un master en marketing digital à l'IAE d'Angers. Et c'est à la suite de ce master, après diverses expériences en stage, que j'ai pu avoir l'opportunité de travailler pour l'ESPL. Donc c'est ma première expérience en CDI que m'a offert l'ESPL. Donc, j'ai commencé en tant que chargée de communication marketing et maintenant, je suis responsable marketing communication pour l'ESPL.
D'accord. Alors, je vais pas faire l'impolitesse de demander ton âge, mais bon, vu qu'on est sur un podcast, les auditeurs le savent pas forcément, c'est que tu es une des rares responsables de communication, probablement avoir moins de 30 ans.
Rare, je pense pas. Je pense qu'il en existe, mais j'ai 27 ans. Voilà. Donc l'ESPL, c'est ma première expérience. Ça fait 4 ans que je suis dans l'entreprise.
D'accord. Ok. Donc ce qui nous intéresse aussi, nous, c'est d'avoir ta vision, on va dire, peut-être aussi un peu générationnelle, parce que bon, bah voilà, nous, à l'âge avançant, on n'a pas forcément les mêmes visions sur les choses. Et c'est intéressant aussi d'avoir ta perception. Et puis, moi, je suis assez content, finalement, de me rendre compte qu'il y a des personnes qui travaillent sur la marque, qui ne sont pas des directeurs de communication d'une cinquantaine d'années, qui ont fait tous les postes dans l'entreprise, mais maintenant qui ont une vraie technicité et qui arrivent avec un regard d'une génération, un regard un peu plus jeune aussi sur ce travail.
Mais je pense que c'est important aussi pour voir un peu comment on peut attirer des nouvelles personnes. En plus, notre cible à nous, c'est vraiment les étudiants, donc c'est les jeunes. Il faut que notre communication colle à ce qu'eux pensent et à ce qu'ils souhaitent. Et puis, après, non pas que des personnes de 50 ans ne savent pas communiquer auprès de la génération, bien au contraire, mais je pense que c'est important aussi de... notre métier, c'est ça, d'être en veille permanente sur ce que maintenant le marketing et la com est. De voir les tendances, de voir ce qui accroche avec nos cibles. Et le fait qu'on soit jeune, c'est un plus. Et encore, moi, maintenant, je commence un peu à m'éloigner de nos cibles, les étudiants. Et ce qui est super, c'est que je travaille avec des personnes qui sont en alternance, donc qui sont vraiment dans
cursus d'éducation.
C'est ça, exactement, dans le cursus d'éducation, qui ont l'âge des étudiants qu'on souhaite, auprès duquel on souhaite communiquer. Et en fait, ils nous apportent beaucoup de choses que moi, forcément, ça a un petit peu évolué depuis que j'étais en formation. Mais c'est vrai que c'est important aussi d'avoir ce constant regard sur les générations actuelles et les communications qui fonctionnent auprès d'eux.
Ouais, une compréhension des interlocuteurs de la marque.
C'est ça, exactement.
Et donc, parlons un petit peu de cette marque pour laquelle tu travailles. Donc, le SPL, est-ce que tu peux peut-être me dire quand est-ce qu'elle a été créée ou quelles sont ses valeurs ou qu'est-ce qui s'y passe exactement ?
Alors, le SPL a été créé il y a 36 ans. C'est une école qui est vraiment spécialisée sur les formations en BTS. Donc, c'est des diplômes d'État. Vous pouvez les étudiants peuvent les faire en initiale et en alternance. Mais vraiment, notre valeur ajoutée, c'est vraiment de proposer un parcours qui est professionnalisant parce que tous nos intervenants sont des professionnels du métier ou ont été des professionnels du métier. Donc, ils savent vraiment de quoi ils parlent. C'est des professionnels du terrain. Donc, ils apportent vraiment une expertise auprès des étudiants.
Concrète.
Concrète, exactement. C'est vraiment sur des métiers qui sont à forte valeur ajoutée en entreprise et qui recrutent énormément. Donc, on va faire dans la logistique et le transport, l'immobilier, banque, assurance, communication. Enfin, voilà, c'est vraiment des secteurs qui recrutent.
Et est-ce que tu pourrais nous donner peut-être trois valeurs de la marque ESPL ?
Alors, les valeurs, ce serait l'accompagnement, parce que en fait, chaque étudiant a un accompagnement sur son projet professionnel, sur son alternance, avec la pédagogie, pour voir comment ils réussissent. Donc, c'est vraiment un point fort de l'ESPL, l'accompagnement. Ensuite, ça va être, comme je vous disais, le professionnalisme, parce que on est avec des professionnels en formation, en entreprise aussi. Donc, ça permet vraiment d'avoir un cadre, de savoir, d'avoir un savoir-être, un savoir-faire dès qu'on entre sur le métier, sur le marché du travail. Et enfin, en dernière valeur, l'alternance, oui, c'est une valeur qui, comme je vous disais, le professionnalisme et la formation de futurs professionnels, c'est vraiment une valeur qu'on souhaite mettre en place.
Ouais, le terrain, quoi.
Le terrain, c'est ça, la valeur terrain, d'avoir ce savoir-faire qu'on apprend en cours avec des professionnels du métier et ce qu'on peut voir aussi sur le terrain, donc le savoir-être et le savoir-faire du terrain avec l'expérience en alternance qui est maintenant devenue très importante parce que c'est vrai que quand le SPL a été créé, l'alternance c'était un peu mal vu parce que c'était pas quelque chose de commun. On associait plutôt ça à des formations un peu à des métiers un peu sous-estimés qui ne le sont pas finalement.
Plus manuel, peut-être.
C'est ça, exactement, plus manuel. Et le fait qu'il y a 36 ans, le SPL se lance là-dedans, dans un enseignement privé, finalement, c'était pas commun. Et là, ça s'est développé énormément, où 75% des étudiants sont en alternance. Et on a une croissance qui est phénoménale, parce que c'est vraiment l'apport de l'ESPL, où en fait, on vous forme à votre... au terrain, à ce que vous faites en entreprise et pas que du théorique.
Laurette, j'ai une question, il n'y a pas forcément de réponse exacte à donner, mais quelle serait, toi, avec ton expérience, aujourd'hui, ta définition de la marque ?
Alors, pour moi, la marque, c'est vraiment un enjeu pour l'entreprise, parce que sans la marque, je pense que ce serait dur de faire de la communication et du marketing. Pour moi, c'est vraiment un point fort d'avoir une marque. C'est un point fort parce que, en fait, autour de la marque, vous construisez vraiment votre message. Et c'est comme ça que derrière, on peut vous reconnaître. Je pense notamment, par exemple, au logo sonore de la SNCF. Vous savez directement que c'est la SNCF, que c'est la marque SNCF. Pareil pour McDo, vous voyez une affiche où vous voyez juste des lignes qui correspondent à un Big Mac. Bah, vous savez que c'est McDonald's. Donc, je trouve que c'est vraiment important d'avoir une marque pour pouvoir construire vraiment son identité et d'être reconnu par les personnes. Voilà.
On pourrait te poser la question 10 fois, tu aurais peut-être 10 fois 10 réponses différentes.
Oui,
nous, on en aurait 10 différentes aussi. Et puis, au final, on nous repose dans 2 semaines, alors elles auront encore changé, quoi.
Oui.
Donc, ça évolue énormément. Maintenant, une question, on va dire, pour les plus jeunes d'entre nous, qui rêvent probablement peut-être d'être astronautes, youtubeurs, joueurs de foot, on ne sait pas. Est-ce que toi, Laurette, petite, tu nourrissais le rêve de travailler pour une marque ou travailler au rayonnement d'une marque ?
Alors, pas du tout. Je connaissais pas du tout ce métier quand j'étais petite. Je rêvais plutôt d'être avocate, être dans l'architecture d'intérieur, mais pas du tout dans le marketing et la communication. Après, j'ai eu la chance d'avoir une sœur qui s'est formée en marketing et c'est comme ça que j'ai pu connaître un peu le milieu. Et c'est comme ça aussi que j'ai poussé mes études dans le marketing digital et la communication. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, je ne connaissais pas du tout et c'est bien dommage.
Peut-être qu'au travers de ce podcast, on pourra faire naître des vocations aussi également.
J'espère, c'est le but.
Parfait, mieux faire connaître notre métier. Allez, on passe maintenant, Laurette, à une rubrique assez particulière, mais qu'on aime beaucoup, nous, chez Audio Tactique, qui s'appelle « Questions de comptoir ». Voilà, donc on va créer un petit univers sympa. On sort du studio, on est plutôt dans un bar, près d'un zinc, tranquillement, à prendre un café, voilà, et on discute. Je vais te poser des questions très courtes, et je te demande en retour de me donner des réponses très courtes. D'accord ? Alors, c'est parti. YouTube ou Jules?
YouTube.
C'est pas facile à dire, hein, YouTube ou Jules. Jules, c'est pas facile. LinkedIn ou Instagram?
Instagram.
Club de foot ou club de golf?
Club de golf.
D'accord. T'as le droit de dire ni l'un ni l'autre.
Ok, hein. Parce que pas très foot, mais le golf, j'en ai jamais fait, donc...
Alors, je te repose la question, alors. Club de foot ou club de golf?
Ni l'un ni l'autre.
D'accord, très bien. Plutôt documentaire animalier ou série policière?
Série policière.
D'accord. Et couleur vive ou pastel?
Pastel.
Ah, c'était clair et net. Ouais. Hein, là. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Pourquoi plus pastel que couleur vive?
Je trouve ça plus doux, c'est plus agréable. C'est un peu plus ce que je préfère. Plutôt que les couleurs vives, parfois... Alors, ça dépend du contexte aussi. Mais c'est vrai que j'aime bien les pastels, parce que c'est doux, c'est apaisant, c'est plus agréable. Mais c'est vrai que les couleurs vives, parfois, c'est un peu trop agressif. Mais ça dépend, parce que si c'est dans un contexte, justement dans la communication, où vous voulez un peu interpeller les personnes, ça ne me choque pas.
D'accord.
Voilà.
On va revenir maintenant au travail de la marque. Selon toi, Laurette, quel est le rôle de la marque dans la réussite d'une entreprise?
Le rôle dans la marque, dans la réussite d'une entreprise, pour moi, c'est de construire une identité, promouvoir les valeurs de l'entreprise, bien vendre le produit. Vraiment, la marque, en fait, elle accompagne l'entreprise à se faire connaître. Pour moi, c'est ça, en fait, l'élément de réussite de la marque au sein de l'entreprise. C'est que vraiment, on arrive vraiment à identifier ce qu'on peut vendre grâce au logo, à la charte graphique, peut-être à l'identité sonore. Ça permet vraiment d'identifier la marque et de savoir de quoi on parle, de savoir de qui on parle, des valeurs que l'entreprise peut promouvoir.
Ouais, pouvoir la reconnaître, la situer aussi également.
Ouais.
Très bien. Est-ce qu'il existe, selon toi, une bonne méthodologie ou en tout cas un point de départ idéal quand on se lance dans le travail peut-être de création de marque?
Alors, je dirais pas qu'il y a vraiment une méthodologie à suivre. Je pense que ça dépend un peu de votre secteur d'activité. Mais c'est vrai qu'il est vraiment important, je pense, pour démarrer une marque, de vraiment connaître les valeurs qu'on veut promouvoir. Parce que derrière, ça va nous aider à construire toute l'identité visuelle derrière. Parce que c'est vrai que l'identité visuelle, ça découle de plein de choses. La couleur, ça peut dépendre des valeurs que vous voulez transmettre. Peut-être qu'une entreprise qui se veut un peu green, elle va plutôt opter pour la couleur justement verte, des couleurs peut-être un peu plus douces que vives. Je pense que ça dépend de votre message que vous voulez faire passer derrière, du produit que vous vendez. Donc il faut vraiment avoir son identité visuelle et savoir les valeurs qu'on veut promouvoir. Et puis après, pour construire sa marque, je pense qu'il faut vraiment avoir un bon plan en tête de un peu le goal ultime qu'on veut avoir pour avoir un objectif derrière.
Et ce goal ultime, ce serait une marque forte, une marque leader sur son marché.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que selon toi, c'est intéressant de copier ou en tout cas de s'inspirer fortement des leaders du marché quand on travaille la marque ?
Alors pour moi, je trouve que c'est intéressant de s'inspirer pas forcément que de son marché, mais aussi de plein d'autres entreprises parce que des idées peuvent naître. Je sais pas, par exemple, nous on travaille sur la formation, mais c'est vrai que ça se trouve, on a vu quelque chose qui était hyper impactant sur Lacoste et on va le transposer sur notre métier.
D'accord.
Et en fait, je pense qu'on doit s'inspirer de ses concurrents parce que c'est un peu ça aussi le jeu, c'est que on voit quelque chose qui fonctionne, bah pourquoi pas le reprendre, mais à notre manière, bien entendu, pas vraiment le copier, pas faire de la plagiat. Mais c'est vrai que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut aller voir ce que font d'autres marques, d'autres secteurs, pour pouvoir après le transposer à notre secteur, à nous. Et c'est là que peuvent naître aussi des idées. C'est vraiment aussi le travail du marqueur de la marque. C'est qu'on va aller faire de la veille pour nous donner des idées. Et c'est souvent comme ça que naissent les meilleures idées, je trouve.
Alors tu nous donnes un bon conseil, là, finalement, à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être en train de créer une marque, c'est de se dire que quand on travaille sur l'entreprise, sur un produit, ben, on va regarder un petit peu chez nos concurrents comment les produits sont faits. Mais quand on travaille sur la marque, le gros avantage, c'est qu'on peut s'inspirer d'autres entreprises qui ne sont pas dans notre secteur, parce qu'elles peuvent avoir un produit complètement différent ou un service complètement différent de l'entreprise dans laquelle on va travailler, mais elles peuvent avoir des valeurs similaires finalement. Donc on peut essayer de trouver des liens entre des marques qui sont dans des domaines différents pour ça.
Oui, c'est ça, exactement. Et je pense que ça fait partie de la création de la marque, de vraiment faire de la veille sur son marché et de la veille partout, parce que c'est là où on peut trouver des inspirations. C'est là où on peut trouver un peu le déclic qui fera déclencher notre marque, qui fera plaire aux gens. Donc, je conseille vraiment ça dans la démarche de création de marque, c'est d'aller faire de la veille, d'être curieux, d'aller voir ce qui se fait partout. Et puis, bah, après, construire toute la stratégie marketing derrière. Donc, je pense que dès qu'on a trouvé un peu les messages qu'on voulait faire passer et puis les valeurs de l'entreprise, l'identité, etc., après, on peut construire un peu tout ce qui est stratégie derrière. Mais vraiment faire une grosse étude de marché d'abord pour voir un peu ce qui se fait.
C'est essentiel.
Essentiel pour les tendances, pour la communication, le prix, le positionnement. C'est vraiment hyper important.
Ouais, sans copier, le but c'est peut-être trouver sa position aussi sur une position qui n'est pas forcément déjà exploitée.
Oui, tout à fait. Le but c'est vraiment pas de copier parce que sinon, je pense que même personnellement, moi personnellement, si je copiais, je ne m'y retrouverais pas forcément. Mais plutôt de s'inspirer. C'est vraiment pas le but d'aller plagier le concurrent parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais c'est vraiment d'aller trouver des idées, s'inspirer et trouver notre créneau à nous, quoi.
Comment tu arrives, toi, à évaluer, même dans les marques que tu connais, te dire, tiens, ça, c'est une bonne marque. Comment on peut l'évaluer? Comment on peut le dire, en fait? Quels sont les critères d'évaluation?
Alors, pour moi, c'est déjà ses valeurs et les messages qu'elle fait passer. Parce que si elle prône des valeurs, mais que le message ne passe pas bien, par exemple, je sais pas, la marque se dit justement qu'elle prône la parité homme-femme, mais si derrière, il n'y a que des hommes dans la société, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment une marque qui est en phase avec ses valeurs et qu'elle le transpose à travers des choses réelles et des messages. Pour moi aussi, ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie de communication qui, comme je disais, colle à ses valeurs, qui colle aussi à sa cible. Parce que c'est vrai que si on va communiquer pour les jeunes, mais qu'on communique sur que de la presse, bah c'est vrai que c'est peut-être pas là où on va aller les trouver. Donc pour moi, une marque qui fonctionne, c'est vraiment une marque qui va aller communiquer, qui va aller chercher ses cibles, où elles peuvent les trouver, donc vraiment se rapprocher des tendances et de ce que recherchent les cibles. Et puis, c'est aussi d'avoir un produit qui fonctionne, qui est clean dans tout ce que vous pouvez proposer, de pas arnaquer les gens, quoi. C'est ça que je veux dire.
Non, mais ça se dit très bien comme ça aussi. Voilà. Effectivement, la marque, c'est une promesse, au final.
Exactement.
Et cette promesse-là, si elle n'est pas respectée, c'est un peu destructif, finalement.
C'est ça. Donc, vraiment, comme tu le dis, Anthony, c'est de tenir sa promesse... auprès de nos cibles, en fait, d'être cohérent de notre communication jusqu'à la vente du produit et après. Voilà.
Très bien. C'est ce qui m'intéresse, c'est que dans le travail de la marque, est-ce que tu vois des différences fondamentales entre les générations, on dirait. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu vois l'évolution de cette marque-là? Je pense qu'on n'a pas forcément la même perception ensemble de la marque parce qu'on a des âges différents. Mm. C'est moi qui suis beaucoup plus âgé. mais quelle est ta perception par rapport à ça?
Alors, je dirais que maintenant, la génération, elle cherche plus à se retrouver dans les valeurs d'une marque que pouvaient l'avoir les générations d'avant. Les générations d'avant, peut-être qu'elles cherchaient plus à trouver la performance, le meilleur produit ou des choses comme ça. Maintenant, je trouve que on va plus aller vers la recherche de... en fait, on veut avoir les mêmes valeurs que la marque. Donc, par exemple, si on est intéressé par l'écologie, on va plutôt aller chercher des marques qui sont dans cette tendance-là, qui proposent des produits qui sont, par exemple, recyclés, qui vont pas aller vers du plastique ou des choses comme ça. Moi, je vois ça un peu comme ça, c'est que maintenant, on va plus chercher à se reconnaître dans la marque plutôt que d'aller vers la performance. Enfin, pas forcément, mais...
Non, c'est intéressant.
Plutôt que d'aller vers des... Par exemple, la reconnaissance de la marque. Par exemple, pour les vêtements, les jeunes, ils vont peut-être plus aller vers des marques qui sont sur plutôt les matières recyclées, etc., plutôt que sur de l'ultra-luxe, parce que l'ultra-luxe va peut-être pas forcément proposer cette dimension écologique. Je ne sais pas si c'est très clair ce que
non,
je dis,
si,
mais...
Non, si, c'est assez clair. C'est même assez intéressant, c'est de se dire qu'avant, peut-être que les communicants qui travaillaient sur la marque étaient en train de travailler avec des entreprises et des marques qui étaient un peu des marques stars, des marques où les gens, les interlocuteurs, les clients, les prospects, le marché avaient... était d'accord pour se faire séduire, était d'accord pour qu'on lui offre ce spectacle, alors qu'aujourd'hui, on veut plus se faire séduire, on veut plus de spectacle, on veut de la transparence et on veut que tout soit aligné.
C'est ça, en fait, maintenant, c'est la transparence qui est un des critères les plus importants. Après, on va aller regarder si le produit est conforme à toutes nos attentes, mais pour moi, je trouve que la transparence maintenant, c'est un enjeu hyper important pour les entreprises.
Oui, qui n'était pas forcément celui qui était présent avant.
Non, non, totalement.
Continuons, on va aller peut-être sur des choses un petit peu plus pratico-pratiques. Je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent absolument rien du métier de travailleur de la marque. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que... Par rapport à la marque ESPL pour laquelle tu travailles, est-ce qu'il y a une routine? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour la marque en observation que tu vas pouvoir faire tous les jours, par exemple? Donc, concrètement, dans ta journée?
Alors, j'ai pas vraiment de journée type parce que, en fait, ça va dépendre un peu des demandes que je vais avoir. Moi, je suis sur un poste plutôt de management. Donc, je vais accompagner mes équipes à la réussite de la communication. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le fait de travailler dans la marque, c'est que en fait vous êtes un peu le porteur de l'image de la marque, que ce soit auprès des clients, mais aussi des collaborateurs, parce que derrière les collaborateurs communiquent aussi sur la marque. L'important c'est de leur faire passer le message de comment bien communiquer, comment transmettre les valeurs de notre marque. Mais c'est vrai que au quotidien, j'ai pas forcément de routine. Après, je vais bien sûr échanger avec les prestataires. Je vais mettre en place les plans de communication avec les équipes. On va aller faire une couverture d'événements. On va aller préparer des vidéos, des interviews. C'est vrai que les journées ne se ressemblent pas.
Peut-être poser la question différemment, c'est de dire quelle est la première chose que tu fais le matin quand tu arrives au bureau ?
Alors, la première chose, quand j'arrive au boulot, j'ouvre mon PC, je regarde un peu mes mails et mes chats sur l'intranet.
D'accord.
Et après, je vais aller saluer mes collègues, je vais aller un peu changer avec eux. Vu que je ne prends pas de café, généralement, je vais remplir ma gourde et échanger avec mes collègues.
D'accord, ok, donc je note, donc mail, pas de café, mais on fait le tour des collègues.
C'est ça.
Voilà, ok, très bien.
Important dans la communication.
Important dans la communication, effectivement. Ok, alors je change un petit peu d'aspect maintenant, changer un petit peu d'optique. Quelles sont les différentes formes que la marque peut prendre ? On connaît bien sûr le logo visuel, mais est-ce que tu peux nous partager, nous donner d'autres formes que la marque peut prendre ?
Alors, ça peut être, comme tu l'as dit, Anthony, c'est le logo. Ça peut être toute la charte graphique, donc les couleurs, les typographies. Ça peut être le slogan. Ça peut être le logo sonore, parce que c'est vrai que maintenant, ça devient très important d'avoir une identité sonore pour avoir une marque qui est bien reconnaissable. Ça peut être les valeurs et le message que vous faites passer. Ça peut être toute l'identité visuelle que vous pouvez retrouver dans les créations visuelles, c'est-à-dire que si vous voyez une affiche et que ça, vous l'avez vue plusieurs fois et que vous avez reconnu la marque, ça c'est gratifiant, je trouve, pour le métier de communicant.
Créer un univers.
C'est ça, créer un univers
avec plein de facettes. Et pour toi, pourquoi c'est important d'avoir cette uniformité, avoir cette marque qui est de manière similaire représentée sur l'ensemble des supports, toujours de la même manière ?
La répétition, c'est important parce que c'est comme ça que le message va s'ancrer dans la tête du consommateur. C'est de se dire que si vous avez vu 5 fois, 6 fois dans la même journée notre affiche pour les journées portes ouvertes, vous allez savoir que c'est l'ESPL parce que vous avez vu le logo orange de l'ESPL qui attire quand même pas mal l'œil, que vous avez reconnu un peu l'identité graphique parce que on utilise à peu près la même sur nos supports en print, nos supports sur les réseaux sociaux, vous allez savoir que c'est cette marque-là. Et pour moi, c'est important d'avoir cette cohérence-là parce que si vous n'avez pas la même cohérence sur l'affichage, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, on ne vous reconnaîtra pas. Donc, on n'aura pas dans notre tête cette idée d'aller consommer, entre guillemets, chez vous.
Mais qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, sur un document de l'ESPL ou sur un 4x3, on va prendre l'exemple, je ne sais pas si tu fais des 4x3.
Oui.
Oui, voilà. Sur des 4x3 de l'ESPL, on avait une couleur, au lieu que ce soit orange, la couleur, elle soit bleu ciel, par exemple.
Ok, ça irait pas du tout parce que finalement c'est pas dans notre charte graphique.
Quel serait l'impact réel ?
Alors l'impact réel, je pense que ça permettrait, enfin de notre point de vue en tout cas du communicant, on se dirait en fait ça pas du tout, c'est pas en cohérence avec notre charte graphique, notre identité visuelle, peut-être nos valeurs parce que parfois la signification d'une couleur elle est importante dans la marque. Donc pour moi, ça me poserait un gros problème. Peut-être que pour une personne qui ne connaît pas forcément la communication, ça n'aurait pas un impact immédiat parce qu'il ne se dirait pas « c'est pas le SPL ». Mais c'est vrai que pour nous, en tant que communicants, si on voit une mauvaise typo ou une mauvaise couleur, on va se dire « ok, là, ça ne va pas du tout, on ne respecte pas la charte graphique, on ne va pas reconnaître l'identité de l'école, c'est pas possible ».
C'est pas possible, d'accord, très bien. Laurette, je voudrais savoir quelque chose qui m'intéressait, et c'était une question que je me posais avant l'épisode, avant de préparer cet épisode. La question, c'est de savoir quelle est la différence entre travailler une marque commerciale ou travailler une marque d'école. Est-ce qu'il y a des différences ?
Alors, la différence entre une marque commerciale et une marque, entre guillemets, d'école, c'est qu'on a un engagement qui est beaucoup plus important dans la consommation, si je peux utiliser ce mot-là. C'est que vous n'allez pas sauter le même pas si vous allez acheter un produit qui vous engage beaucoup moins que si vous allez vous inscrire à une formation. C'est vrai que la formation, ça vous engage pour engage, entre guillemets, hein, vous pouvez partir, mais ça vous engage pour une durée qui est minimum d'un an. Donc, c'est quand même important. Et c'est aussi votre avenir que vous décidez à ce moment-là. Après, maintenant, on voit beaucoup plus de profils qui se reconvertissent, qui changent de voie au bout d'un certain temps. Mais c'est vrai que de vendre des formations et une école, c'est un peu plus compliqué, je pense, qu'un produit que vous consommez, parce qu'il faut que vous apportiez de la réassurance auprès des personnes, de la confiance aussi, parce que c'est vrai qu'on voit pas mal d'écoles qui viennent s'implanter sur le marché, qui fleurissent de partout, mais au final, qui n'ouvrent pas. Alors nous, heureusement, on a vraiment une expertise depuis 36 ans où on appuie vraiment sur ce fait-là. Moi, c'est vraiment un élément que je peux utiliser dans mes communications.
Communiquer sur les résultats.
Vous avez c'est obtenu. Ça, parce que derrière, ça va rassurer les étudiants, se dire, bah voilà, cet acteur-là, il est présent depuis 36 ans, il a fait ses preuves, il y a plus de 2000 entreprises qui l'accompagnent dans l'alternance. Donc, vraiment... communiquer sur l'école, c'est un peu différent quand même.
Ouais, je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est que le fait que l'engagement sur une marque liée à une école, l'engagement du client va être beaucoup plus fort et donc va nécessiter beaucoup plus de réassurance qui doit être apportée dans ce travail de marque, justement.
C'est ça. En fait, le but, c'est de prouver un peu que vous êtes légitime à venir chez nous. Donc, bah, de parler, comme je disais tout à l'heure, que les intervenants sont des professionnels, que nos formations sont reconnues par l'État, qu'elles sont diplômantes, que c'est donc des BTS, des diplômes d'État. On a aussi des titres de niveau 5. Donc ça aussi, ça peut faire peur, le fait que ce soit pas des diplômes d'État. Mais derrière, toutes nos formations sont reconnues par l'État et sont certifiantes et diplômantes. Et donc, c'est vraiment un travail constant de dire, voilà, vous allez venir chez nous, vous allez être bien formés, vous allez avoir un accompagnement. On est là depuis 36 ans, on vous aide à trouver l'alternance, on vous accompagne dans votre projet professionnel. C'est vraiment, comme je vous disais, il faut rassurer, pas forcément que les étudiants, parce que parfois les parents rentrent beaucoup en jeu dans cet engagement-là. Donc aussi, à rassurer les parents sur le fait qu'on est un acteur qui est présent et qui accompagne les étudiants.
Et ce besoin de réassurance dans le travail même de la marque, on parlait tout à l'heure de la cohérence pour utiliser la bonne couleur, la bonne typo, le bon son, la bonne image, ça t'impose, toi, dans ton travail, d'être encore plus rigoureuse, parce que dès qu'il va y avoir peut-être une distorsion ou quelque chose qui ne fonctionnera pas, on peut créer un peu de confusion, voire un peu de crainte. Donc on va à l'envers de la réassurance. Peut-être que ça demande un niveau d'exigence encore plus important, peut-être.
Je pense que de toute façon, dans le métier de la marque, il faut être exigeant, être rigoureux, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans nos mains, on a l'identité de l'entreprise, on a l'image de l'entreprise, donc on se doit d'être cohérent, d'être rigoureux. Je dirais pas qu'on doit être plus rigoureux qu'une autre marque, parce que on a tous les mêmes exigences d'être cohérent et qu'on souhaite diffuser le message, d'être cohérent dans ce qu'on veut diffuser. Mais c'est vrai que notre cible est particulièrement exigeante parce que l'engagement est beaucoup plus fort.
Une question maintenant sur la partie, l'aspect un peu juridique. On se rend compte qu'en fait, au travers de la création de marque et de tout le travail que tu fais, toi et tes équipes, que vous créez énormément de valeur pour la marque. Donc, pour l'entreprise, cette valeur, automatiquement, elle doit comporter un risque ou en tout cas un besoin de défendre tous les éléments de marque. Qu'est-ce que tu mets en place ou peut-être qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un néophyte ou à quelqu'un qui crée son entreprise d'un point de vue juridique pour pouvoir défendre sa marque ?
C'est une très bonne question.
Je ne sais pas, je vais la poser autrement la question, mais se dire, est-ce que on parlait tout à l'heure de veille, d'études de marché, est-ce que tu regardes par exemple si tu n'es pas en train de te faire copier par une autre école ?
Ah bien sûr, je regarde ça, je regarde aussi sur Google, parfois ça nous arrive d'avoir des concurrents qui se positionnent sur notre nom de marque quand on tape le SPL à Angers, donc c'est vrai qu'on est particulièrement vigilant sur ça, donc je dirais d'être vraiment, c'est encore de la veille, mais je pense que c'est vraiment important pour notre métier, c'est de regarder un peu si auprès de la concurrence, il n'y a pas trop de similitudes, parce que c'est vrai que parfois ça peut créer des confusions auprès des consommateurs. C'est si vous avez une école qui a à peu près le même nom et qui vient se positionner sur votre nom sur Google, finalement, il va se dire quelle école je vais voir, finalement, qui est qui, je sais pas trop, ça peut créer de la confusion. En termes de juridique, c'est vraiment de surveiller votre marque, que ce soit sur les réseaux, sur Google, de faire vraiment attention à tout ça, parce que c'est vrai que maintenant, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, des choses peuvent prendre des proportions énormes. Des fois, il y a des
réputation.
Ouais, exactement. On peut des fois avoir des faux comptes qui viennent dans le cadre, par exemple, d'un concours. On voit beaucoup en ce moment sur ces publications-là que des faux comptes sont créés et qui viennent vous dire que vous avez gagné au concours, venez chercher l'eau en cliquant sur ce lien. Donc, c'est vraiment une attention constante.
C'est de l'usurpation d'identité de
totalement,
marque.
Totalement, ouais, totalement. Ça, il faut faire vraiment attention. Donc, sur toute la veille, partie veille, une veille constante, en fait, auprès de la marque. Et puis, après, je pense qu'il y a des choses que les patrons connaissent bien, d'aller déposer sa marque, d'aller payer son nom de domaine quand il doit se renouveler, parce que des fois, on se retrouve un peu embêté, parce que c'est le concurrent qui l'achète.
Même nous.
Oui. Donc, faire attention un peu, être en veille constante de ce qui se passe.
Ok, merci, Laurette. Laurette, tu nous as parlé énormément du travail de la marque sur le digital. Je pense que c'est lié aussi à ton expérience, ton expertise. Est-ce qu'il y a d'autres médias qui ne sont pas digitaux sur lesquels la marque SPL est présente, par exemple ?
Oui, bien sûr. Alors, on va aller communiquer aussi sur de l'affichage en centre-ville, par exemple, justement pour aller annoncer nos journées ouvertes.
On en avait parlé sur les 4x3.
Oui. On a ça. Après, on a aussi la radio. Je ne sais pas si vous la considérez comme digitale ou pas, mais...
Non, pas spécifiquement. C'est un média traditionnel.
Donc, on est sur la radio aussi pour aller toucher beaucoup de personnes. On est aussi sur de la presse.
Donc, la relation presse fait partie de ton travail également.
Oui, oui. Okay. Donc, on va aller faire de l'insertion presse, donc communiquer sur les journaux, où on va plutôt aller toucher la cible, pour le coup, des parents. Parce que c'est vrai que parfois aussi, les parents, enfin même beaucoup, les parents en post-bac vont s'intéresser à l'étude de leurs enfants, ce qui est normal.
Et c'est une bonne chose.
Et c'est une bonne chose. Et puis aussi, pour les personnes en reconversion, qui ne sont pas forcément... c'est peut-être un tort de ma part de dire ça, mais qui nous suivent pas forcément sur les réseaux sociaux. Donc on va aller plutôt les capter sur des médias un peu plus traditionnels. La presse, comme je le disais, et puis voilà.
Quel regard tu portes sur le futur, ou comment on travaillera une marque dans 10 ans, par exemple, ou dans 20 ans ?
Je pense qu'on inclura beaucoup plus l'intelligence artificielle. Je sais que nous, on l'utilise déjà pas mal avec, par exemple, ChatGPT. Moi, j'utilise pas mal dans mon travail, que ce soit pour la rédaction d'articles, pour donner des idées. Je pense qu'on va beaucoup plus l'inclure. Et je pense que le consommateur évolue déjà beaucoup. C'est vrai quand on fait des publicités sur les réseaux sociaux, on s'attend moins à ce que la personne vienne nous contacter. C'est plus de la notoriété, donc je pense que ça évolue pas mal. Mais en tout cas, je pense que le digital, les podcasts, l'audio ou des choses comme ça vont pouvoir venir un peu changer les habitudes. La vidéo aussi, peut-être sur des formats un peu plus, et on le voit déjà, un peu plus qualitatif que de la simple production d'interview. Je pense qu'on est un peu à la recherche de ça. Mais aussi d'une expérience client de plus en plus unique, vraiment personnalisée pour moi. Je pense que ça va être la clé. Et peut-être que l'intelligence artificielle pourra nous aider avec ça. Parce que c'est vrai que c'est un travail, je pense qu'on ne le voit pas forcément, mais pour faire un parcours client assez unique, il faut beaucoup, beaucoup de travail derrière dans toute la mise en place de la communication et du marketing. Donc, je pense qu'on sera bien content de trouver un peu de l'aide de l'intelligence artificielle, mais je pense que dans nos métiers de la marque, on va avoir beaucoup d'échanges avec ça.
Marqueur, l'heure de la marque touche à sa fin. On en sait plus maintenant sur toi, Laurette. On en sait plus sur ton travail, sur ton métier, sur ton travail de la marque. On en sait plus aussi sur le SPL. Merci d'avoir été mon invité aujourd'hui.
Merci beaucoup, Anthony. C'était super.
c'est génial. Et puis, merci vous, auditeurs, de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cet épisode, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager dans vos réseaux. Ça nous aidera bien sûr à faire connaître le podcast. Ça nous aidera aussi à faire connaître ce métier de travailleur de la marque. D'ici le prochain épisode, écoutez, portez-vous bien et puis on vous retrouvera avec plaisir. À bientôt.